Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques. Nous avons commencé il y a quelques semaines déjà dans l'épître de Jacques. Je rappellerai que c'est une épître qui est initialement adressée à des chrétiens d'origine juive, mais qui sont dispersés, on pourrait dire, dans l'Empire romain. Et cette épître, cette lettre, met l'accent sur la pratique de la vie chrétienne. Si vous lisez, c'est pas long à lire, hein, vous pouvez lire ce soir. Si vous n'avez jamais lu en entier l'épître de Jacques, il y a 5 petits chapitres, ça va très vite, vous pouvez tout lire, hein, pour avoir une idée d'ensemble. Mais c'est une lettre qui est très pratique. Il y a beaucoup de recommandations pratique pour la vie chrétienne. Donc c'est très enrichissant pour nous parce que, bon, cette lettre traite de beaucoup de sujets différents. Et à travers les sujets qui sont traités, on peut avoir une idée de la situation dans laquelle se trouvaient les destinataires, les premiers destinataires de cette épître. C'est-à-dire les 12 tribus qui sont dans la dispersion selon le verset 1. On peut voir qu'ils subissaient des épreuves, déjà dès le verset 2, ils étaient probablement pauvres, chapitre 2, versets 5 et 7. Ils étaient aussi un peu négligents concernant la parole, d'après le verset 22 que nous pouvons lire ici, chapitre 1. Ils oubliaient peut-être leurs devoirs les uns envers les autres parce qu'ils sont encouragés à ne pas oublier, verset 27, assister les veuves, les orphelins. Ils avaient des problèmes pour se maîtriser au niveau de la langue, et tout le chapitre 3 parle de ce problème, peut-être que nous connaissons aussi. Et ils faisaient preuve de favoritisme, ils flattaient les riches, et ils étaient aussi fortement attirés par les choses du monde. Bon, je pense qu'on peut se retrouver à travers cette fresque-là de situation, donc on peut trouver la parole de Dieu est utile, bien sûr, mais on peut trouver des ressemblances dans les situations que nous vivons et être encouragé aussi par cette lettre. Alors, quel est le but de la lettre? Nous avions dit que bien c'est l'encouragement des chrétiens face aux épreuves, aux souffrances, aux tentations, à l'attrait du monde, hein, et la lettre vraiment semble indiquer aux chrétiens comment mûrir spirituellement, au travers des difficultés. Et donc, elle ne présente pas une structure spécifique, comme on peut trouver dans les lettres de Paul, par exemple, avec une partie purement doctrinale, bien structurée, puis ensuite des conséquences qui sont tirées de cette partie doctrinale. Et elle se présente plutôt comme un ensemble de recommandations, donc un ensemble d'exhortations. Donc c'est, comme je l'ai dit, une lettre qui est très pratique et qui vise presque le comportement même du chrétien face au monde et dans les difficultés, dans leurs relations les uns avec les autres. Et en fait, en substance, Jacques enseigne que la foi véritable doit se traduire par une vie pratique spécifique, hein, on pourrait dire. Donc le premier chapitre que nous avons entamé, traite des épreuves dans la vie des croyants, de la manière de considérer même ces épreuves. Et les diverses épreuves de la vie du croyant constituent un test pour leur foi et puis fournissent en même temps la preuve de la réalité de cette foi. Donc Jacques dit, par exemple, premièrement, que l'épreuve de la foi produit la patience. On avait lu ça. Et puis que la patience doit œuvrer de manière pleine et complète pour amener la maturité spirituelle. Et on avait intitulé notre première étude « Les épreuves ont un but ». C'est ce que l'apôtre montre au début du premier chapitre. Et puis la seconde, nous avions considéré les épreuves, mais considéré la sagesse au sein de l'épreuve. Aujourd'hui, je voudrais considérer... un petit saut, on ne va pas voir tous les versets, mais considérer les versets 13 jusqu'au verset 25. Et les versets 13 jusqu'au verset 25. Donc Jacques chapitre 1, verset 13, je vais relire cela, si vous ne l'avez pas encore lu. Jacques chapitre 1, verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà, donc ce que nous allons considérer ce soir, c'est très pratique, hein. Vous voyez, il y a plein de recommandations ici. Et donc, j'ai intitulé cette méditation « Sortir victorieux de la tentation ». Sortir victorieux de la tentation. Parce que je crois que c'est ce que Jacques fait ici, qu'il montre à verset 12, dit déjà, qu'il parle de « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime ». Et puis, il donne un certain nombre de recommandations par la suite. Et donc, dans les versets que nous avons considérés, il est question, verset 13 déjà, de quelqu'un lorsqu'il est tenté. J'aimerais souligner déjà que la tentation ici n'a pas le sens d'épreuve, comme c'est le cas au verset 2, par exemple. Si vous lisez le verset 2, vous voyez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parfois, on interchange les mots épreuve et tentation. Mais ici, ça n'est pas le cas. Et il a plutôt le sens de sollicitation au mal. Hein, quand on est tenté, quand on dit je suis tenté, c'est que on est tenté de faire ce qui est mal. Quand on parle de la tentation d'Ève, c'est la tentation et de Adam, c'est la tentation à faire le mal. Quand on parle de la tentation de Jésus-Christ, le diable a poussé à faire ce qui est mal et contraire à la a voulu en tout cas, entre la volonté de Dieu. Donc ici, dans toute cette section que nous avons considérée, le verset 13, en tout cas en particulier, traite de la tentation, mais dans le sens de cette sollicitation à faire ce qui est mal. Pas en tant qu'une épreuve que l'on peut avoir dans notre vie, mais comme quelque chose qui nous pousse à faire le mal. Et ce que Jacques traite, dit ici, c'est que quelque part à travers les épreuves, parce qu'il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, au sein de l'épreuve, souvent, avec l'épreuve, souvent arrive une tentation. Parfois, le Seigneur permet une épreuve, mais au sein de cette épreuve, le diable peut s'immiscer pour nous tenter. Et puis nous-mêmes, nous sommes tentés par des choses. Et c'est ce que l'apôtre traite ici. Parce que les difficultés, quand elles sont là, pour donner un exemple tout simple, hein, voilà, on a des difficultés fin de mois, c'est une épreuve. Hein. Mais après, on peut être tenté d'aller voler ou faire quelque chose de moins grave que voler, mais qui n'est pas quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, tricher sur une déclaration, sur quelque chose, pour s'en sortir. Donc l'épreuve, c'est la difficulté financière, mais la tentation, c'est d'améliorer cette situation en faisant ce qui est mal. Donc si vous voulez, ça donne une idée de ce que Jacques dit ici. Et donc, deux personnes, par exemple, dans une même situation, dans une même épreuve, peuvent réagir différemment à la tentation qui est issue de cette situation. Vous pouvez penser, par exemple, aux deux brigands sur la croix. Il y en avait deux. Il y en avait un qui avait le cœur qui était changé, et puis l'autre qui avait le cœur endurci dans cette épreuve qu'ils subissaient. Ils avaient le cœur endurci. Et donc, l'épreuve a souvent, ça c'est important de le noter, je réinsiste là-dessus, a souvent une tentation qui s'y infiltre. Et donc, quelqu'un disait même que c'est un élément même de l'épreuve, la tentation est un élément de l'épreuve que nous traversons. Donc, dans les versets 12 à 25, plutôt 13 à 25, Jacques indique comment sortir victorieux de cette tentation, quand on est tenté. Il y a une épreuve, mais on est tenté à faire ce qui n'est pas droit aux yeux de Dieu. Comment est-ce qu'on peut sortir victorieux de cela? Premièrement, je le mets comme ça, il faut cultiver des pensées justes sur Dieu. Cultiver des pensées justes sur Dieu. Regardez le verset 13. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise quoi? C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Le premier réflexe humain, lorsqu'on est tenté ou lorsqu'on a péché, c'est de rendre quelqu'un responsable de ma chute. C'est notre tendance. C'est toujours à cause de quelqu'un. On dit, ah, tu t'es mis en colère, mais c'est à cause de lui. S'il n'avait pas parlé comme ça, j'aurais pas. Et on a du mal à reconnaître sa faute. Et franchement, quand on nous reproche quelque chose, hein, c'est comme ça qu'on réagit. C'est jamais de notre faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Les enfants le font, mais nous aussi, en tant qu'adultes, nous le faisons. Et j'ai entendu des personnes qui étaient en butte à leur propre péché, accuser des fois leurs femmes, leurs enfants. Peut-être je sais que je l'ai fait. Le mari, le patron, le frère, la sœur, l'église, parce qu'on ne veut pas reconnaître les choses que nous avons faites. Mais remarquez ici que Jacques ne dit pas que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est les autres qui me tentent ». Qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Il est en train de dire que fondamentalement, la personne que l'on accuse en premier lieu et en premier chef, lorsque nous sommes tentés ou que nous passons par des situations difficiles ou que nous avons péché, de manière directe ou indirecte, c'est Dieu. C'est Dieu qui est responsable. Je suis tenté, mais il avait la possibilité d'enlever cette tentation, n'est-ce pas? Il est souverain, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est donc sa faute. Il y a des gens qui parlent pratiquement comme cela. J'ai écouté une prédication en préparation de cette étude et l'orateur parlait de quelqu'un qui a commis l'adultère. Puis, qui était dans le ministère, qui était dans le service senior, qui a commis l'adultère, puis qui est parti, qui est allé à un second endroit. Tout ce que j'ai pu comprendre, il a commis aussi l'adultère. Et puis ça est arrivé encore ailleurs une troisième fois. Finalement, il a quitté, il a fait autre chose. Et il a dit, si vous, parce qu'il a connu cette personne, si vous questionnez cette personne et vous lui dites, mais une fois, c'est quand même déjà terrible, mais trois fois. Et il dit que sa réponse est la suivante. Il dit, la Bible dit qu'aucune tentation qui vous est survenue n'ait été humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il enverra le moyen pour que vous puissiez, la supporter. Et il dit, ça ne s'est jamais produit. Donc Dieu ne l'a pas fait. Et donc, il accusait Dieu d'avoir menti dans ce qu'il a dit dans la Bible, parce qu'il n'a pas été délivré de cette tentation. Vous voyez ? Et on accuse Dieu en général, en premier lieu. Et à travers l'accusation que l'on porte contre notre épouse ou contre notre enfant ou contre notre patron, c'est en fait contre Dieu que nous dirigeons le droit. Lorsque Dieu est venu voir Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mais il n'a pas dit, la femme m'a donné. Qu'est-ce qu'il a dit ? La femme que tu as mise. C'est toi qui l'a mise là. Autrement dit, ici, il n'accusait sa femme pratiquement pas. À travers l'accusation qui semble porter contre sa femme, c'est contre Dieu que se dirige son accusation. Et je crois que ce que Jacques dit ici, c'est qu'il faut reconnaître que souvent, nous levons, quand ça ne va pas, ou que nous sommes mécontents de nous-mêmes, ou que les situations ne sont pas comme nous voulons, nous avons tendance à lever le poing contre Dieu. Il dit que personne ne fasse cela. Donc, il montre la gravité que c'est. Il ne parle pas des autres, là, ici. Il ne dit pas contre ton frère. Il dit que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Parce que c'est naturel, même si on ne le fait pas directement. Indirectement, c'est Dieu que nous accusons. Pensez à tous les exemples que vous avez dans la Bible. Lorsque Moïse parle au peuple, lorsque Dieu plutôt parle à Moïse, et puis qu'il dit à Moïse, ne crains pas, ce peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette. En te rejetant, c'est moi qu'il rejette. Et Moïse dit, quand vous murmurez contre moi, il dit, qui suis-je pour que vous murmuriez contre moi ? C'est contre Dieu que vous murmurez. Et c'est toujours contre Dieu que l'on pêche, en premier lieu. Donc Jacques dit que personne ne le fasse, ici. Parce qu'il dit, Dieu ne tente jamais, Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente jamais personne. Et donc il donne les raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Il dit parce que Dieu est impeccable. Impeccable, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire bien habillé, hein, bien propre. Hein. Ça veut dire incapable de pécher. On appelle ça l'impeccabilité de Dieu. Dieu ne peut être tenté par le mal, mais non seulement cela, il ne tente jamais personne. Alors vous dites, ah, on va chercher dans la Bible s'il n'y a pas des endroits où Dieu quand même, il a incité à... Et on trouve dans la Bible, dans 2 Samuel, lorsque David a fait le dénombrement, vous vous rappelez de cette histoire probablement, il dit que l'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Ah, mais voilà un endroit où Dieu incite. Et c'était mal de faire le dénombrement, parce que c'était compter sur combien de personnes on a dans la population, et puis bâtir sa confiance sur la quantité d'hommes qui peuvent partir à la guerre. C'était une faute. C'était mettre sa confiance dans les hommes plus qu'en Dieu. Mais quand on lit le passage parallèle dans 1 Chronique, qu'est-ce qu'il est dit ? La même histoire, il dit, Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. Bon, la Bible dit ici que c'est Satan qui incita David à faire. Et donc Dieu ne tente jamais personne par le mal, mais il peut laisser le diable tenter encore les gens. Mais c'est à nous de résister, nous sommes d'accord. Mais il peut, comme il a permis au diable de toucher à Job, d'accord. Okay. Il, dans sa souveraineté, il est souverain sur toute chose. Mais la Bible affirme clairement ici, Jacques affirme clairement que Dieu n'incite pas au mal. Il n'est pas tenté par le mal et il n'incite pas non plus à pécher. Ensuite, ici, donc on peut rajouter peut-être à cela, Parce que Dieu est, vous pouvez penser à Dieu, il est parfait. Il est parfaitement parfait, on pourrait dire. Et sa perfection s'étend sur tout ce qu'il fait. La nature de Dieu touche ce que Dieu est, touche à l'œuvre de Dieu. Donc le Dieu saint, sans péché, qui a horreur du mal, ne pousse pas les hommes à faire ce qui est mal. Il n'incite pas au mal, il ne tente pas au mal. Donc, quand quelqu'un est tenté, il ne peut pas dire « c'est Dieu qui me tente, j'ai chuté, c'est à cause de lui ». Voilà, Jacques dit non, il dit que personne ne doit le dire. Deuxièmement, il dit qu'il faut cultiver, on peut dire qu'il faut cultiver des pensées justes sur Dieu, et que Dieu ne peut être tenu responsable de la tentation, c'est ce que Jacques dit ici, on a dit à cause de sa nature impeccable, mais aussi à cause de la perfection de ses dons. Regardez le verset 16. Il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Ne vous y trompez pas, dit-il. Ne vous égarez pas. Ne vous abusez pas. Souvent, quand on est dans les difficultés et quand on est tenté, on s'abuse soi-même. On se trompe, on s'égare sur Dieu, sur sa nature, sur ce qu'il est. On croit le connaître, mais on s'égare soi-même la plupart du temps. Et l'apôtre dit ici, enfin l'apôtre plutôt, Jacques dit ici, qu'on ne doit pas s'abuser. Il dit au verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. On est émerveillé, n'est-ce pas, quand on regarde les astres, hein, et quand on regarde le ciel. On a l'impression de grande stabilité, n'est-ce pas ? Quand on regarde l'univers, c'est stable. C'est rassurant même, des fois. Et Jacques dit ici que celui qui a créé tout cela, il dit toute cette belle création, ces astres, etc., il dit ces choses bougent quand même. Hein. Il y a des variations. Le soleil, il brille aujourd'hui. Bon, on sait qu'il est là, mais on n'a pas vu beaucoup, nous. Hein. Dans le sud-est de la France, ils ont peut-être eu 35 degrés, j'en sais rien, mais nous, on n'a pas vu. Donc, parfois, le soleil, il est caché, il y a des ombres, il y a ceci. Bon, ces choses bougent, ces choses varient, malgré la grande stabilité qu'on peut y voir. Eh bien, il dit, Dieu, lui, ne change, n'a ni changement, ni ombre de variation. Et tout ce qu'il fait, tout ce qui vient de lui, n'est que grâce excellente et don parfait. Il est en train de dire que Dieu ne fait que du bon. C'est dans sa nature. Dieu est bon. Quand vous êtes tenté, pensez à une chose, cultivez cette pensée, dit-il, Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bon. Dieu ne fait que du bon, du bien. Il faut marteler ces choses dans notre pensée et ne pas croire que je suis tenté, c'est Dieu qui me tente. Il dit, toute grâce et tout don parfait viennent d'en haut. Et puis, avec le verset 18, il donne la plus forte preuve que tout ce que Dieu fait et donne est bon. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc il parle à ces chrétiens auxquels il écrit de son époque. Eux étaient les prémices, nous ne sommes pas les prémices de ces créatures, sur le plan spirituel, je veux dire, parce qu'eux, ils ont été les premiers fruits hein, de l'Évangile. Nous sommes les fruits qui sont venus après. Mais il dit une chose qui est très, très importante ici, il dit la preuve même de la bonté de Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Il ne l'a pas fait sous une quelconque contrainte. Il a exercé librement sa volonté. Il aurait pu nous laisser pourrir et moisir et vivre éternellement en enfer. Il aurait été juste en le faisant. Dieu vit dans une permanente communion parfaite, complète, éternelle avec le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'avait pas besoin de nous créer pour apprendre à aimer. Ils ont vécu éternellement dans cet amour. Et il nous fait rentrer quand il vient chercher ça. Il les fait rentrer dans cet amour. Mais Dieu n'a pas dû nous créer pour apprendre à aimer. Quelqu'un faisait remarquer, le Dieu qu'on adore dans l'islam est un Dieu qui ne peut pas connaître l'amour parce qu'il est tout seul. Tandis que la Bible, en nous enseignant la Trinité, nous montre que Dieu a vécu éternellement dans l'amour. Il n'a pas besoin d'autre chose pour apprendre à aimer. Il est complet. Il est complet. Et la Bible dit qu'il a exercé sa libre volonté pour nous engendrer, pour nous racheter. Il faut considérer ce fait quand on est tenté d'accuser Dieu, de ne pas être bon à notre égard. Il a librement exercé sa volonté pour nous sortir des ténèbres et nous amener à son admirable lumière. Personne ne l'obligeait de le faire. C'est ce que la Bible enseigne. L'apôtre Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la lumière, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté, mais de Dieu, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Je relis encore Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5, dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » C'est quelque chose qui doit nous amener à l'adoration et pas à l'accusation de Dieu. Jacques dit ici, Dieu nous a engendrés librement. Il nous a choisis, d'autres textes disent librement. Par la parole de la vérité, bien sûr la parole de la vérité ici, c'est l'évangile. Éphésiens chapitre 1 verset 3, il dit voilà que ceux qui ont cru à cette parole de la vérité qui est l'évangile. Donc on comprend que c'est par l'évangile, bien sûr, par la parole que nous sommes engendrés. Donc je rappelle ce premier point, que personne quand il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, mais qu'il cultive de justes pensées sur Dieu. Dieu n'est pas tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même jamais personne. Parce qu'il est parfait, sans péché. Son amour, il le montre par le fait, son amour, il le montre par la bonté de tout ce qu'il nous accorde. Il n'accorde que du bon. Grâce excellente et dons parfaits viennent de lui. Et la preuve qu'il en est ainsi, c'est qu'il nous a choisis librement, volontairement, pour nous sortir des ténèbres et nous amener à la lumière. Quand nous sommes tentés, chers frères et sœurs, méditons ça, pensons à ça. Dieu est bon. Il n'est que bon. La preuve, c'est qu'il m'a racheté. Il ne m'a pas racheté pour me perdre. Il m'a racheté pour me sauver, pour me donner la vie éternelle. Deuxièmement, il nous faut comprendre aussi la nature de la tentation. Comprendre la nature, cultiver de bonnes et de justes pensées sur Dieu, mais aussi comprendre la nature, le principe de la tentation. Verset 14 et verset 15, on revient un petit peu en arrière, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Il y a ici un processus qui est clairement, je crois, identifié et qui concerne le mécanisme de la tentation. Pas la peine d'aller voir un psychiatre, hein, ou un psychologue. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine, elles sont certainement très compétentes dans la sphère qui leur est réservée à leur place. Mais ici, en ce qui concerne la tentation, c'est la Bible qui fait, la parole de Dieu qui fait référence. C'est elle qui fait autorité ici. Et Jacques ici nous livre le secret de la tentation ici. Quand quelqu'un dit c'est Dieu qui me tente, il dit comprenez comment fonctionne la tentation. La tentation trouve sa racine et les éléments nécessaires à son développement, à son éclosion, dans le cœur même de qui ? De l'homme, de nous ici. Hein. Notez ici que ce processus que Jacques décrit concerne tous les hommes, vous et moi, les femmes aussi, parce que les femmes sont des hommes comme tous les autres. Hein. Donc l'être humain, hein, cette description, il dit chacun est tenté, ça veut dire dès qu'on est tenté, c'est comme ça que ça se passe. Pas la peine de dire, oh, mais ça dépend s'il est né en Inde ou celui-là, il est né aux États-Unis, il a grandi dans une famille chrétienne, ils ont des églises de 3000, 4000, 5000 membres, et puis là-bas, peu importe, d'où qu'on vienne. Il dit, quand un homme est tenté, voilà comment ça se passe. Et ça fait autorité, et ça ne changera jamais. C'est comme ça. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui sait comment nous fonctionner. Il est d'abord, il dit, attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et le temps des verbes qui utilisés ici indique que c'est une réalité permanente. C'est comme s'il disait, ça a été comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est comme ça que ça se passe hein, ici. Donc c'est invariablement le processus qui prend place quand il y a la tentation. Et les verbes qu'il utilise décrivent aussi le fait d'être poussé par un désir intérieur. Et aussi, le premier sens, quand il dit vous êtes, chacun est attiré. Et puis le second est un terme qu'on emploie à la pêche pour appâter les poissons. Vous voyez, quand on met un petit ver dans l'eau qui bouge, et puis les poissons voient ça, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont attirés, ça semble tellement vrai. Donc il y a comme une force qui les pousse quand ils voient ça, et ensuite ils sont attirés vers cette chose. C'est le verbe que tu disais, c'est celui qui est utilisé pour appâter un poisson. Et donc, la beauté, on pourrait dire, du ver qui danse librement dans l'eau, les attire, et ils abandonnent les poissons toutes méfiants. Ce poisson, c'est méfiant. Hein. Hein, c'est très méfiant. J'étais chez Steve, ils ont un bassin avec des poissons. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, ils ont de gros poissons dans leur bassin. Et quand je m'approchais pour leur donner à manger, hein, s'ils voyaient mon ombre dans l'eau, parce qu'il y avait beaucoup de soleil là-bas, il y a de l'ombre, alors il y avait beaucoup de soleil, et donc hop, ils se mettaient à fuir. Ils sont extrêmement peureux ici. Et ici, Jacques dit, eh bien, il y a des moments où peut-être le poisson, hein, quand il voit un ver, ça semble vrai, il s'approche et il se laisse attirer, et puis la méfiance tombe. C'est comme ça que ça se passe aussi pour les hommes. La convoitise est dans le cœur. Et puis, les objets sont à l'extérieur. Ce ne sont pas les objets qui sont le problème. C'est la convoitise qui est à l'intérieur de moi qui, quand je vois cette chose, je me laisse amorcer par elle et puis je me laisse attirer par cette chose. Il dit que c'est comme ça que cela fonctionne. La convoitise, c'est un désir qui est très fort, qui est à l'intérieur. Ça peut être un bon désir, dans le sens où c'est un désir à faire quelque chose, pousser à faire quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qui est émotionnellement très fort, ou ça peut être aussi vers le mal. Et elle exerce son attraction sur l'homme. L'homme est attiré par ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Jésus n'a été tenté que par ce qu'il y avait à l'extérieur. Il n'y avait pas de convoitise en lui. Mais nous, nous avons, à cause de la nature pécheresse, la convoitise dans notre cœur. Et la parole de vie dit, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et puis il ajoute, puis, je lis dans second 21, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et la Bible regorge, n'est-ce pas, d'exemples de personnes sur la convoitise et puis qui se sont laissées entraîner et attirer. La convoitise chez Ève a été le désir du fruit défendu. La convoitise chez Acan, vous vous rappelez, a été le désir du beau manteau qu'il a vu, un beau manteau de Chinéar. La convoitise chez David, ça a été le désir qui était suscité par la silhouette de Bathsheba. La convoitise chez Géasi, c'était le désir de posséder les présents que Élisée avait refusés. La convoitise chez Ananias et Saphira, c'était le désir de la réputation, n'est-ce pas, à bon marché, on pourrait dire. Et est-ce un péché que d'avoir vu le fruit? Est-ce un péché que d'avoir vu le beau manteau de Chinéar? Est-ce qu'un péché que d'avoir vu la silhouette, il n'aurait pas dû monter, d'accord? Mais en fait, voir simplement sans sa faute, c'est pas un péché. Lui, il a cherché un peu, d'accord? Mais voir n'est pas un péché, ici. Tout ça, non, les présents, est-ce que c'était un péché de voir ces présents qu'avait ce Naaman? Pas du tout. Le péché est né quand, au lieu de faire mourir la convoitise et ne pas la nourrir, qu'est-ce qu'on fait? On la garde et on la recherche, n'est-ce pas? Et on va même la provoquer, on l'écoute, et donc à ce moment-là, on se laisse entraîner par cette convoitise. Et quelle est la prochaine étape? Ève fait quoi? Elle mange. Acan vole. David commet l'adultère, Géasi court après la fortune, et Ananias ment au Saint-Esprit. Tout ça, c'est parti de la convoitise dans le cœur. Ce n'étaient pas les circonstances qui étaient les problèmes, c'est ce qu'il y a enfoui dans le cœur. Et Jacques dit, attention, quand vous êtes tenté, ne dites pas c'est Dieu qui me tente. C'est la convoitise qu'il y a dans votre cœur qui vous attire, qui vous entraîne. Et puis quand la convoitise vous a attiré et qu'elle vous a entraîné, qu'elle rencontre, il dit quoi, la convoitise, elle enfante, voilà, hein, tout ça, elle enfante le péché, c'est comme une conception, vous voyez. Et puis après, une fois que le péché est consommé, c'est la mort. Ne dites pas, dit-il, c'est Dieu qui me tente. C'est en vous qu'est le problème. C'est ce que dit Jacques ici. Je n'ai pas le temps de terminer mon troisième point, chers frères et sœurs. Il est trop tard. Mais je vais juste vous donner le titre et on fera une prochaine fois, je pense dans 15 jours à peu près. Troisièmement, vous pouvez le méditer à la maison, il faut s'attacher fermement à la parole. Verset 19 à verset 25. Et ce point est très important, donc on prendra le temps, ça, beaucoup de choses à voir là-dessus, on prendra le temps une prochaine fois. Mais juste pour terminer, c'est important, vous voyez, Jacques dit, il faut regarder les épreuves comme un sujet de joie. Mais il y a un risque, c'est qu'à travers les épreuves et la tentation qui risque d'arriver, on peut tenter de faire le mal. Ne vous trompez pas, ne vous égarez pas sur ce point-là. La tentation, l'épreuve peut venir de Dieu, mais la tentation à faire le mal pour répondre à cette épreuve ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. La preuve, il vous a engendré selon sa volonté, librement, par la parole de la vérité. Et puis il dit deuxièmement,
Sachez une chose, la convoitise, la tentation, c'est en votre cœur que cela prend naissance. Quand vous êtes tenté, cela vient de vous, de la convoitise qui est au-dedans de vous. Vous êtes attiré, vous êtes amorcé, c'est comme ça que ça se passe. Il faut le savoir. Si on ne sait pas ça, on accuse les autres, on accuse Dieu, il dit c'est comme ça que ça se passe. Et donc ça veut dire quoi? Qu'il faut se prémunir contre ces choses. Et puis troisièmement, il dit il faut s'attacher fermement à la parole de Dieu. Si vous voulez sortir victorieux de l'épreuve. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à les reméditer, pour chacun pour nous-mêmes. Prions. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Et je te prie que tu nous aides par ton esprit à reconsidérer ces points que nous avons soulevés. Nous te louons parce que tu veux nous donner la victoire dans notre vie. Tu as prévu que nous passions à travers les épreuves. Tu as prévu que nous soyons perfectionnés à travers les épreuves. Mais à cause du péché qui est en nous, à cause du diable aussi, nous savons qu'à travers ces épreuves que tu permets pour notre perfectionnement, nous pouvons tomber dans la tentation. La tentation de chercher des raccourcis et de faire ce qui est mal. Nous te prions de nous aider à considérer ces réalités, ces vérités sur toi, sur ta nature, sur ta bonté. Considérer à nous voir nous-mêmes tels que nous sommes selon ta parole et à nous attacher fermement à ta parole et à nous y soumettre pleinement. Aide-nous, nous t'en prions. Ton nom est pour ta seule gloire. Amen.